VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Et les médias Brazzaville, Congo, bonjour à tous. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans de pouvoir à la tête de son pays, a été réélu au premier tour de l'élection présidentielle avec 60,39% des voix, selon des résultats officiels publiés cette nuit, mais aussitôt contesté par ses deux principaux concurrents, Anne Alberson.
L'annonce officielle de la victoire de M. Sassou Nguesso a été faite à la télévision nationale par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, peu après 3h30 du matin, alors que le pays était privé de télécommunications depuis plus de 4 jours. M. Sassou Nguesso a estimé que le peuple congolais avait pris son destin en main et jugé que la campagne électorale avait donné lieu à un débat démocratique très ouvert. À Brazzaville, dans les quartiers sud de la ville, acquis à l'opposition, la majeure partie des boutiques sont restées fermées toute la journée de mercredi, après un déploiement massif de soldats et policiers lourdement armés dans la nuit de mardi à mercredi. Unis par un pacte anti-Sassou, 5 candidats, dont M. Kolela et le général Mokoko, ont créé une commission technique électorale chargée de surveiller le scrutin et de compiler les résultats des bureaux de vote sur la base de leurs procès-verbaux. Sur la base de ces données, l'opposition dit avoir la certitude de l'élimination de M. Sassou Nguesso et qu'un deuxième tour devrait avoir lieu.
En Guinée équatoriale, le front de l'opposition démocratique, fort en sigle, a appelé hier à boycotter l'élection présidentielle du 24 avril en estimant que toutes les conditions sont réunies pour des fraudes. John Lydon.
Le FOD appelle ses militants et la population à ne pas aller voter car cette élection est anticonstitutionnelle. Le président Théodore Obiang-Nguema ne respecte ni la constitution ni les lois, a déclaré un de ses leaders, Guillermo Nguemaela, lors d'une conférence de presse à Malabo. Ce front de l'opposition équato-guinéenne regroupe la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition à avoir une représentation au Parlement avec un député et un sénateur. L'Union populaire, la Force démocratique républicaine et le Mouvement pour l'autodétermination de l'île de Bioko. L'opposition justifie son appel au boycott par l'absence de commission électorale indépendante, de recensement biométrique et la mainmise absolue du parti au pouvoir sur les médias d'État. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans aucune explication.
Nouvel appui sécuritaire des États-Unis au Cameroun sous la forme de matériel sophistiqué de surveillance des aéroports et des frontières, une assistance qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les insurgés nigériens de Boko Haram. Martin Mbarga Ngele, le délégué général à la sûreté nationale, a souligné l'importance de l'appui américain.
Les États-Unis d'Amérique vont installer dans nos aéroports et postes frontières un système d'identification comparatif et d'évaluation individuelle sécurisé, PICES, qui permettra de mieux contrôler les mouvements des personnes et des biens qui traversent nos frontières.
Les États-Unis avaient précédemment fourni à l'armée camerounaise des équipements militaires ainsi que des conseillers militaires pour appuyer la lutte contre les militants de Boko Haram. Le Cameroun fait face aux insurgés nigériens depuis 2013 lorsqu'ils ont commencé à attaquer ces localités proches de la frontière nigériane.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le dossier de ce journal au Niger, Mamadou Issoufou a été réélu pour un second mandat à la tête du pays selon les résultats provisoires de la CENI, la commission électorale, mais l'opposition persiste et signe. Elle ne reconnaîtra pas cette réélection du nouveau président, du président sortant, pardon. Va-t-on vers un blocage politique au Niger? Pour une analyse, Bagassi Koura s'est entretenu avec le professeur Yahya Issoufou, historien et politologue à l'université de Niamey.
Le second tour est pour moi un cas d'école. Je crois qu'il restera dans les annales de l'histoire politique du Niger parce que jamais une élection n'a été aussi sujette à controverse que celle-ci. Puisque d'un côté, on ne reconnaît pas tout en participant, ce qui est le cas de l'opposition, et de l'autre côté, on fait tout pour que l'élection se tienne et qu'on remporte ces élections. Donc le gagnant est connu d'avance, le perdant est connu d'avance, donc il n'y avait vraiment pas d'enjeu en ce qui concerne ce second tour, si ce n'est que juste la confirmation de ce que tout le monde savait.
Le candidat du pouvoir a gagné et l'opposition qui n'a pas participé ne reconnaît pas les résultats. Quelle est la prochaine étape pour vous?
La prochaine étape va être aussi peut-être une exécution d'un cas d'école, puisque l'opposition a dit à l'avance qu'elle ne reconnaîtrait pas les instants issus de ces scrutins, qu'elle ne reconnaîtrait même pas le scrutin. Et avant cela, l'opposition a dit bon, qu'elle conteste la Cour constitutionnelle, qu'elle conteste la CENI. Finalement, l'opposition conteste tout.
Est-ce que le Niger va plonger dans la crise politique?
Je ne pense pas, puisque le pouvoir voulait coûte que coûte que les scrutins soient organisés. À partir du moment où les scrutins sont organisés, on ne pourra pas parler de vide institutionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut diriger un pays comme le Niger en occultant l'opposition?
Est-ce que le Niger a reculé sur le plan démocratique?
Complètement. C'est un recul incommensurable. Je pense que la ligne de démarcation, la cassure, elle est nette et c'est la mauvaise organisation de ces scrutins. C'est le forcing et surtout l'impréparation qui les a caractérisés. Plus maintenant, c'est que les observateurs, les uns et les autres, ont constaté des fraudes assez massives. Je crois que c'est tout cela, c'est tout ce cocktail qui a produit des élections beaucoup plus de divisions que de rassemblements et qui ont fait deux camps diamétralement opposés et dont les revendications sont aux antipodes les unes des autres.
Professeur Yahya Issoufou, historien et politologue à l'Université de Niamey. Attentat de Bruxelles, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur et de la Justice des pays de l'Union européenne est convoquée aujourd'hui à Bruxelles pour apporter une réponse européenne après les attentats. Le gouvernement fédéral belge a appelé à une nouvelle minute de silence en hommage aux victimes dans toute la Belgique ce jeudi. Pour le troisième jour de deuil national, l'enquête sur les pires attentats terroristes en Belgique se poursuit avec la traque d'un fugitif. On annonce un deuxième et le premier fugitif n'avait pas toujours été identifié. L'aéroport international de Bruxelles ne rouvrira pas au trafic voyageur avant samedi au plus tôt. Le groupe État islamique a ordonné aux quelques 15 000 civils encore présents à Palmyre de fuir cette ville syrienne que les forces pro-régime cherchaient à reprendre, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits humains, l'OSDH. Leur progression est toutefois ralentie par des engins explosifs laissés par l'État islamique dans les champs autour de la ville, d'après l'Observatoire. Une source de sécurité syrienne affirmait hier que l'armée, désormais aux portes de la ville, se préparait à débuter la bataille de la libération de la ville prise par les djihadistes en mai. Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Moscou. Il doit discuter aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine de la transition politique en Syrie. Melis Eagle.
Les regards seront tournés vers Moscou pour connaître l'issue de la rencontre entre Kerry et Poutine. Washington souhaite le départ de Bachar al-Assad. Moscou estime que seuls les électeurs syriens ont le droit de décider de son sort. Les pourparlers indirects à Genève font du sur place. Stéphane de Mistura, l'émissaire onusien, souhaite un coup de pouce de John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Lorsqu'ils s'entendent, ça aide énormément, a-t-il déclaré, faisant allusion à la trêve qui tient depuis fin février en Syrie. La feuille de route fixée par l'ONU prévoit la mise en place dans les 6 mois d'un organe de transition censé élaborer une nouvelle constitution et organiser des élections dans un délai de 18 mois. Seulement, les bombardements russes ont permis au régime syrien de regagner du terrain face à ses nombreux opposants. L'annonce surprise, il y a une dizaine de jours, du retrait du contingent russe de Syrie a été perçue comme un signal envoyé au régime pour qu'il entre sérieusement dans les négociations en vue de trouver une solution.
Argentine, pour la première fois, un président des États-Unis rend hommage aux victimes de la dictature militaire qui a fait régner la terreur de 1976 à 1983. Barack Obama se recueille aujourd'hui au parc de la mémoire de Buenos Aires. La visite du chef de l'exécutif américain coïncide avec les 40 ans du coup d'État du 24 mars 1976. Difficile à avaler pour les militants anti-dictature, la controverse a été apaisée par une promesse de la Maison-Blanche d'ouvrir des archives de la CIA et de l'armée américaine sur cette période sombre de l'histoire du pays sud-américain. Et puis le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend son verdict contre l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, aujourd'hui. Radovan Karadzic est accusé notamment de génocide après les pires atrocités commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le prochain journal, c'est avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.